sur RFI.fr.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les banlieues se racontent. Depuis la révolte des cités en France, il y a plus de 10 ans, on peut parler d'un calme relatif, certes ponctué de faits divers, mais en tout cas qui tranche avec une situation sociale explosive. Pauvreté, échec scolaire, taux de chômage plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Alors dans quel état d'esprit sont les jeunes des cités, issus de la troisième génération d'immigrés? Comment vivent-ils? À quoi rêvent-ils? On va en parler à la lumière d'une enquête passionnante au pied des tours des cités. Bonjour Manon Kerouille-Brunel.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter indépendante. Vous avez enquêté pendant plusieurs mois pour produire une analyse relativement dépassionnée finalement sur les problèmes des quartiers. Avec vous Malek Dehoun, également co-auteur. Bonjour Malek.
Bonjour.
Vous êtes un ancien de la cité. Vous publiez donc tous les deux La part du ghetto, La vérité sur les banlieues aux éditions Fayard. Et au fil des pages de votre enquête, on comprend mieux pourquoi les cités se sont refermées comme des huîtres sur elles-mêmes, avec leur code de comportement, une économie souterraine aussi extrêmement organisée. Vous en parlez beaucoup dans l'enquête. Il existe aujourd'hui un véritable choc générationnel dans ces quartiers. Et on peut se demander si le pouvoir politique en prend toute la mesure, alors que le gouvernement devrait se prononcer sur un énième plan pour les banlieues, le rapport de Jean-Louis Borloo. Avec nous également Marie-Hélène Baquet qui vient d'arriver. Bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro, tout va bien. Vous allez avoir le temps de reprendre votre souffle. Vous êtes professeur d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest Nanterre et vous avez publié il y a quelques années Mixité sociale et après. Et quant à vous les voisins, si vous le souhaitez, vous pouvez réagir pendant l'émission en nous appelant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis en fin d'émission, comme chaque lundi désormais, ne manquez pas notre série L'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours de Rolande Camonnier, productrice de l'émission The Voice Afrique francophone, un programme de divertissement musical qui a conquis le continent et sa diaspora. D'ailleurs, 80 millions de vues sur YouTube. Ça sera à suivre à la fin de l'émission. Je vous lis tout de suite quelques messages postés sur Facebook à propos des banlieues, des quartiers. Voilà ce que disent les voisins de leur quartier à eux, chez eux, délaissés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs en périphérie, dans les villes africaines. Ozil est à Bamako. Il nous dit qu'ici, les banlieues sont la terre des laissés pour compte. Les jeunes ont un comportement qui échappe aux autorités. On a par exemple un jeune qui fait l'actualité musicale et qui inquiète les autorités. Iba Montana, un jeune rappeur qui vient d'une banlieue bamakoise et qui critique le pouvoir et les religieux. Mossadoua Conakry, je suis plombier, je vis dans la banlieue de Tombolia. On n'y trouve aucune infrastructure réelle, aucune entreprise génératrice d'emplois. Il n'y a rien à part des poubelles et des saletés. L'État se fiche du quartier. Il ne vient pas en aide aux gens en difficulté. Vous nous appelez, si vous le souhaitez, au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous nous suivez sur Twitter en direct.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Mais tout de suite, je vous propose un reportage à Sarcelles dans le Val d'Oise. C'est là que la France édifie le premier grand ensemble en 1955 dans le contexte de pénurie de logements de l'après-guerre. 60 ans plus tard, cette commune du nord de Paris compte plus de 59 000 habitants, 70% de logements sociaux, 30% de chômeurs. Alice Milo y a rencontré Linda, 21 ans.
Bah ici, en fait, on est au club de foot à Sarcelles. C'est un très grand club, il y a aussi, ils font du rugby, du tennis, c'est l'ASS Sarcelles.
Et pourquoi vous m'avez emmené là?
Ici, on a passé la moitié de notre enfance, presque tous, parce que ici c'est le seul endroit où on se sent vraiment, vraiment soi-même.
Même quand on est une fille?
Ouais, avant il n'y avait pas de filles à Sarcelles au foot. Et on est venu à 5-6, on faisait du foot à Domont, mais ça faisait trop loin de chez nous, parce qu'à Sarcelles il n'y avait pas de filles. Du coup on est venu à plusieurs filles et on a demandé à ouvrir une section féminine et ils l'ont fait.
Pourquoi c'est là où vous vous sentiez le mieux en fait?
Bah ici on se sent bien, on se sent nous, on n'est pas jugé, pas regardé, on fait ce qu'on veut.
Il y a d'autres endroits dans la ville où c'est plus difficile d'être soi-même?
Au collège où les profs qui étaient peut-être moins typés que nous, ils nous disaient qu'on allait peut-être rien devenir ou ils nous donnaient pas trop d'espoir.
Vous savez ce que les gens ils disent de Sarcelles?
Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est chaud là-bas. Pff, viens voir, c'est rien chaud du tout. J'y ai vécu toute ma vie et c'est une très belle ville. Mais le plus, c'est, comme on dit, entre guillemets, chez nous, de l'autre côté du périph'.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le périph', il entoure Paris. De l'autre côté, il y a nous, les banlieues. Et au milieu, bah, il y a Paris. Et quand on est de l'autre côté du périph', on habite dans des HLM. Tout est moins bien que Paris. Les niveaux, même les niveaux d'études, ils sont moins bien. Tout est moins bien que Paris. C'est ça en fait. Habiter dans une banlieue, c'est habiter dans des tours. Donc j'ai décidé de travailler sur Paris pour voir autre chose. Vraiment pour voir autre chose.
Donc vous avez travaillé au Monoprix ?
Oui, voilà, j'ai travaillé au Monoprix pendant un an.
Comme caissière ?
Oui, et tout ça en même temps que mes études.
Vos études de quoi ?
Moi j'ai fait des études d'infirmière, je suis en deuxième année. À Monoprix, une personne est passée à ma caisse. Je lui ai fait passer un article sans l'avoir scanné. J'ai oublié en fait de l'avoir scanné. Mais vraiment hein. Et parce que cette personne-là était d'origine maghrébine, ils ont cru qu'elle était de ma famille. Et ils ont cru que j'ai volé. Vous imaginez ?
C'est la cliente qui était d'origine maghrébine ?
Oui, mais je la connaissais pas. J'ai fait une erreur. Et par malheur, c'est tombé sur une maghrébine. Du coup, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit, oui, c'est du n'importe quoi, vous avez volé. Je dis, mais cette personne-là, je la connais même pas. Du coup, j'ai quitté. Il m'a même pas viré, hein, parce qu'il avait vu que c'était lui le raciste. Il m'a même pas viré, j'ai démissionné. Et je suis partie. Ils sont pas assez ouverts pour accepter des gens de banlieue. Donc,
Vous étiez obligée de travailler en même temps que vos études ?
Ah oui, obligée. Pour financer le permis, pour payer les études, pour payer l'assurance. Pour l'argent de poche, on n'a pas maman ou papa qui va nous donner de l'argent, jamais de la vie. Jamais, c'est pas possible.
Pourquoi ils font quoi vos parents ?
Bah, ma mère est mère au foyer, mon père est, est pas là. Un foyer sur deux n'a pas de papa dans cette...
Ici, dans cette cité ?
Dans toutes les banlieues, je pense.
La moitié des appartements ici, c'est des mamans célibataires ?
Oui.
Là, où est-ce qu'on est arrivé ?
Et là, on est au Rosier.
Les Rosiers ? C'est ouais. Votre quartier ?
Ouais, c'est ça, c'est mon quartier.
Donc là, on est au milieu des bars et des tours, en fait ?
Ouais, voilà, c'est ça. Je suis née à l'hôpital Sarcelles, ici, à Sarcelles, nord parisien. J'ai fait ma maternelle à Sarcelles, mon collège, mon lycée et mon foot. J'ai tout fait ici. Bien sûr, on est très attaché à cette ville, très très attaché. Ma mère est arrivée dans les années 70 en France.
D'Algérie ?
D'Algérie, c'est ça. Elle a rencontré à l'âge de 30 ans mon père.
Qui venait d'Algérie aussi ?
Qui venait d'Algérie, qui était en France. Du coup, ils se sont rencontrés en France.
Et lui, il faisait quoi comme travail ?
Il était maçon. Et ils se sont mariés, ils ont eu 5 enfants et je suis la dernière.
Et ils font quoi vos frères et sœurs ?
Ma sœur est soignante. Deux frères qui sont caristes et un qui est livreur. Mais je suis la seule qui a fait des études.
Et pourquoi ?
Leur motivation, je sais pas.
Ils avaient pas envie.
Ouais, je pense qu'ils ont vite goûté au travail, à l'argent. Ils ont voulu peut-être. C'est comme ça dans la moitié des personnes ici. Plus jeune ils travaillent, mieux c'est. J'ai un de mes frères qui a commencé à travailler à 16 ans.
Et alors là, on est où ?
Ici, on est à Saint-Brice. En fait, il y a une gare, Sarcelles-Saint-Brice. À droite, il y a Sarcelles. À gauche, c'est Saint-Brice. Et là, on est dans le côté un peu plus riche.
Ça veut dire quoi, un peu plus riche ?
Ben vous voyez, ici, il n'y a pas de cité, c'est juste des habitations, il y a de l'herbe, c'est beau. Ici, on va plus trouver des Français, des Blancs Français, pardon, parce que je suis Française aussi.
Ça vous a jamais créé de ressentiment de vous dire que de l'autre côté de la rue, il y avait voilà, ces pavillons et ces gens qui vivaient plus confortablement que vous ?
Ben non, au contraire, c'est une force, c'est une source de motivation. Demain... Nous, on fait des études, on travaille, on va se battre. Et demain, on achètera nous-mêmes un pavillon pour offrir à nos enfants un monde meilleur. Même si on aime beaucoup, on aimerait sortir d'ici.
7 milliards de voisins.
Seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin.
Marie-Hélène Baquet, que vous inspire ce témoignage de cette jeune fille, 21 ans ?
On voit une réalité bien ancrée qui est celle des inégalités spatiales dans la région parisienne qui n'ont fait qu'augmenter depuis un certain nombre d'années. On a des quartiers qui sont de plus en plus pauvres et à l'autre bout, on a des quartiers qui sont de plus en plus riches. Donc ce qu'elle raconte, je suis en train en ce moment de faire des ateliers avec des jeunes dans plusieurs quartiers de la région parisienne. C'est ce que j'entends, c'est ce sentiment très fort d'inégalité, d'abandon de la part des...
Chez nous, c'est pas comme dans le reste de la France. C'est ça, en fait. Hein,
Mais voilà, il faut dire, quand on va dans le grand ensemble de Sarcelles, on s'aperçoit que le grand équipement culturel qui avait été prévu au moment du grand ensemble a été fermé, qu'il n'y a plus de, il y a plus de cinéma, qu'il n'y a plus aucune activité. Donc, c'est la réalité.
Malek Dehoun, vous reconnaissez ce que disent les jeunes dans votre quartier, dans le témoignage de cette jeune fille, de Linda, 21 ans, à Sarcelles ?
Oui, en quelque sorte quand même, Bon, je trouve qu'il y a un peu dans l'abus quand même, un peu. Mais sinon...
Vous trouvez que c'est caricatural ?
Un peu quand même, un peu. De dire que parce qu'elle a fait passer quelqu'un en caisse, il est raciste, le patron, ça, faut arrêter. T'as fait une erreur, ça n'a rien à voir avec du racisme, ça. Donc, ouais, je pense qu'elle est un peu caricaturale, cette jeune fille-là.
Manon Kerouille Brunel, alors vous avez enquêté avec Malek Dehoun. Dans votre livre, vous dites il y a une partie de la population qui a disparu du paysage des cités, ce sont les filles.
Ben d'ailleurs, elle l'exprime assez bien, cette jeune fille de Sarcelles. Elle explique qu'elle s'est dépêchée de gagner de l'argent pour passer son permis de conduire, qui est quand même aussi le ticket de sortie, et qu'elle est allée travailler sur Paris, voir autre chose. Et je crois que c'était un témoignage assez récurrent chez les jeunes filles qu'on a parvenu à interviewer, parce qu'encore une fois, elles étaient pas présente dans la cité, c'était de se dire on laisse la cité aux garçons et nous on prend Paris, on va vivre notre vie là-bas, loin de la tyrannie des grands frères, loin des regards de la communauté, et on se crée une vie finalement à quelques stations de métro, mais ça change tout. Ouais.
Alors vous êtes une jeune femme, jeune, Manon Kerouille Brunel, pourquoi vous avez travaillé avec Malek Dehoun, que vous présentez au départ dans le livre un peu comme un fixeur, c'est-à-dire une personne qui aide les journalistes dans les zones de conflit, hein, c'est ça la définition d'un fixeur à la base.
Alors pour revenir aux fondamentaux, le fixeur c'est un anglais to fix, c'est celui qui organise, celui qui gère. Donc c'est plus que ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ouvre des portes, qui met en contact, qui ouvre aussi son carnet d'adresses, qui est assez conséquent chez Malek. J'ai travaillé avec lui parce qu'on se connaissait depuis des années. C'est pas une rencontre opportuniste pour ce livre. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Il avait effectivement joué les fixeurs sur un documentaire télé, il y a 10 ans à l'époque, sur le trafic de drogue, où il nous avait assuré de la sécurité notamment, parce qu'il fallait descendre dans des squats avec des gens au crack, etc. Donc je me sentais pas de faire ça toute seule, et Malek est venu avec moi. Et donc après, on est resté en contact et on a eu cette idée ensemble de raconter sa banlieue, encore une fois, pas les banlieues, la sienne, parce qu'il était plus légitime pour le faire.
En Seine-Saint-Denis. Une banlieue dont vous ne révélez pas le nom d'ailleurs, pour des raisons de sécurité, pour c'était aussi un contrat de confiance avec les jeunes que vous avez interviewés, qui sont tous anonymes.
On voulait vraiment parvenir à ce qu'ils ne soient pas identifiables. Donc on a changé les prénoms, on a modifié quelques détails qui ne compromettent pas la véracité journalistique du reportage par ailleurs, mais ou en tout cas, on leur a rajouté ou enlevé un nombre d'enfants pour qu'ils puissent se confier sans avoir peur d'être identifiés.
Mais la parole est si verrouillée que cela, Malek ?
Ils aiment pas trop se confier, ils aiment pas parler, comme ça peut parler de trafic, de religion, les gens ils aiment pas trop, en plus ils sont pas trop fiers.
Une journaliste blondinette comme Manon qui débarque dans les cités, on se demande tout de suite ce qu'elle vient faire au pied des bars.
C'est exact, c'est qu'est-ce qu'elle vient faire, c'est pas la police, elle travaille pas pour la police, est-ce que ça va nous porter des problèmes? Parce qu'il y a eu beaucoup de reportages, il y a eu beaucoup de problèmes suite à des reportages télé. Donc les jeunes maintenant, ils se méfient beaucoup en banlieue.
Qu'est-ce que vous appelez problème?
Il y a eu, suite à certains reportages, vous pouvez regarder, il y a eu des arrestations sur des gens, ils se sont livrés à des choses. Et après, il y a eu des arrestations, des problèmes. C'est-à-dire tout le monde se méfie un peu en banlieue. Ils ont plus confiance aux journalistes.
Dans votre enquête, Manon Kerouille, vous n'avez pas du tout eu de contact avec la police. Il n'y a pas d'interview.
Non, c'était un parti pris.
Du côté des forces de police, d'ailleurs.
D'une part, parce que nous, notre travail d'écoute, il était auprès des habitants de la cité. Et d'autre part, parce qu'en toute honnêteté, on ne les voit pas beaucoup. Au fil des mois, je ne dirais pas que c'était une présence policière très très forte. On les voit passer dans des voitures banalisées de temps en temps. Ce qui est assez rigolo, c'est que les voitures banales, elles sont connues de tous les habitants, donc elles ne sont plus du tout banalisées. Et ils font partie du paysage, et c'est quelque chose avec lequel on travaille autour, on s'organise en fonction. Mais il n'y a ni une police de proximité, ni une police qui pourrait créer un effet de surprise pour pouvoir intercepter éventuellement des trafics.
La part du ghetto, ça s'appelle comme ça le titre de votre enquête. Pourquoi le mot ghetto, Malek ?
Parce que je pense qu'au fur et à mesure des années, ça devient c'est un réel ghetto maintenant. Ça, c'est, il y a des petits commerces, des petits trafics. Je pense que ça, c'est devenu vraiment, pour moi, c'est devenu un ghetto. Donc on a préféré mettre vraiment
c'est-à-dire,
ce mot-là.
Vie parallèle, culture communautaire et économie souterraine. C'est tout ça qui fait la définition du ghetto ?
C'est exact.
Je crois que pour Malek aussi, ce qui faisait ses définitions, c'était la fin du vivre ensemble, ce dont il parle beaucoup dans sa postface. Ce qu'il raconte, lui, quand il est né dans les années 80, c'était beaucoup moins un ghetto, il y a une vraie mixité sociale. Et aujourd'hui, elle a disparu. Ouais.
Et on voyait la police, nous. Il y avait une police de proximité qui venait, qui discutait avec nous. C'est plus comme maintenant les jeunes, c'est vrai que maintenant, c'est plus pareil. Tout a changé.
Alors, qu'est-ce qui a changé aussi avec cette troisième génération issue de l'immigration ? C'est-à-dire dans la mentalité des jeunes, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'appréhender leur destin ?
Je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent réussir par n'importe quel moyen. Et comme ils n'ont pas fait, on ne va pas se mentir, pour la plupart, ils n'ont pas fait de grandes études. Donc, ils essayent de se faire une vie par rapport à l'illicite. Bon, il y en a qui s'en sortent un peu. Bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc, à partir de ce moment-là, ces jeunes, ils se sont créés un univers à eux, quoi. Et ils
pensent
un monde parallèle. Et voilà,
vous démontrez même carrément une forme d'embourgeoisement, c'est le mot que vous employez, des jeunes des cités, par l'argent. Sauf que c'est l'argent de l'économie souterraine et de la délinquance.
C'est exact. Ouais, ben maintenant ils vont, ils achètent des vêtements, ils achètent des appartements, ils ont des belles voitures,
c'est-à-dire
ils sortent.
Dans ces cités qui sont, dont tous les voyants sont au rouge, question chômage, question revenu par habitant, où la pauvreté est partout, dans votre livre on ne fait que parler d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent.
Je pense que c'est une préoccupation d'autant plus importante qu'on en manque, on le sait, et c'est aussi pour ça qu'on joue beaucoup
en cité. Tout le monde n'en manque pas hein, dans votre livre.
Mais ils en ont beaucoup manqué et ils ont grandi avec l'envie de faire de l'argent parce que c'est le ticket de sortie le plus évident, du ghetto, de la misère. Et c'est une obsession effectivement récurrente. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que pour la mentalité, elle va plus loin que ça. C'est de dire, on va pas tout cramer. On économise, on achète une maison. On veut mieux pour nos enfants. Donc on se prépare, on sait. Et c'est marrant parce qu'il y a une vraie lucidité par rapport à ça. Ils nous le disent tous, on sait qu'on fait pas long feu dans ce métier. C'est-à-dire quand on est dealer, quand on est braqueur. Ça se
on parle
joue
du, sur... on, alors mettons des mots sur ce que vous décrivez. On parle du trafic de cannabis. Hein.
Voilà, là, en l'occurrence, oui.
Rentabilité d'un terrain de deal qui est vendu comme un bien immobilier, dites-vous. Mm-hmm. Qui peut se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros.
Oui, selon la taille et l'emplacement. Ouais.
Donc en cash. Mmh. Rentabilité d'un terrain, vous l'écrivez tous les deux, c'est une mine d'or. Celui de Choco qu'il gère avec son ami Fouad, on écoule en moyenne 350 grammes de shit par jour. À raison d'une barrette de 4 grammes vendue autour de 20 euros, son emplacement génère quotidiennement dans les 2000 euros. Un terrain moyen d'ailleurs, comparé à d'autres comme celui de Bagnolet qui débite 1 kilo par jour. Alors il faut faire des maths hein, quand on lit votre enquête, c'est-à-dire plus de 6000 euros par jour dans ces cas-là. Hein.
Si vous avez fait le calcul, c'est ça.
Oui, parce que vous n'êtes pas allé au bout du calcul.
Non, mais encore une fois, c'est nous, l'exercice, effectivement, vous avez raison, il faut pas vous mettre des chiffres et on parle d'argent, mais l'enquête, elle était aussi à vocation sociologique. C'est-à-dire qu'on voulait essayer, au-delà des chiffres, de raconter pourquoi c'était important pour ces gens.
Mais c'est-à-dire que vous décrivez des jeunes qui tournent à 4 000, 5 000 euros par mois dont la famille est au RSA.
Oui.
C'est exact.
Et dont ils remplissent le frigo, souvent.
C'est explosif de raconter des parcours comme ça, politiquement.
C'est-à-dire, c'est une réalité. Nous, on a fait encore une fois un travail d'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. On a essayé de trouver une distance à peu près neutre. Donc, il y a des gens qui peuvent en conclure que c'est scandaleux que ces gens gagnent 4 000 euros. Et puis, il y a des gens qui peuvent se dire, mais pourquoi ils en sont à faire ça et ils ne sont pas sur les bancs de l'école? On peut se poser la question dans les deux sens.
Alors, vous poursuivez aussi toujours dans l'enquête. Si le terrain est bien tenu, c'est la tranquillité assurée pour les gens du quartier. Et vous citez les propos de l'un des dealers. Celui qui fout le bordel, c'est pas les flics qui vont le calmer, c'est nous, pas moyen de nickel business.
Bah oui, parce que avant, il y avait des vols de voitures, il y avait des cambriolages, il y avait tout. Donc ça ramenait la police. Donc les jeunes, ils ont dit quoi? Comme ils vendent, c'est leur terrain, c'est leur, comment dire, leur petit commerce, leur petit magasin. Pour éviter que la police y vienne, faut que le quartier soit paisible. Donc plus de vols, plus d'agressions, plus de cambriolages, il n'y a plus rien. Il n'y a que du deal. Quoi.
En même temps, il y a d'autres enquêtes qui interrogent les habitants des quartiers. Le mot paisible, je ne sais pas si c'est un mot qui correspond à ce que vivent les habitants des quartiers qui vivent avec le trafic de drogue sous leurs fenêtres. Ce n'est pas comme ça qu'eux qualifient leur vie.
C'est exact, c'est dans certains quartiers, mais nous où on est...
Toutes leurs allées-venues sont surveillées, ils ne peuvent plus entrer dans leurs immeubles à cause du trafic, donc... Eux ne considèrent pas que leur quartier est paisible.
Ouais, je suis d'accord avec vous, je vais redire ce que j'ai dit, sur certains quartiers, oui. Mais nous, comme on a écrit sur mon quartier, tout est paisible. Les gens, ils sont paisibles, ils n'ont pas de problème dans ça. Les jeunes, ils ne vendent pas en bas des tours, ils vendent dans un coin spécialement. Où je suis, moi, t'as vu, Manon, est-ce que j'ai dérangé les...
Non, et c'est ce qu'il disait aussi, c'est que... Il racontait qu'un jeune avait, il y a quelques années, essayé d'ouvrir un terrain de crack, donc de drogue dure. Et au bout de 2 mois, du coup, effectivement, il y avait des addicts au crack qui venaient dans le parc où jouaient les enfants, où ils avaient l'impression d'être au milieu des zombies. Et encore une fois, c'est pas la police qui a réussi à faire fermer ce terrain de crack, c'est les jeunes qui ont dit...
Les trafiquants.
Voilà, les trafiquants.
De cannabis.
De cannabis,
non,
ou même les anciens.
Même nous, même des gens qui travaillaient, qui sortaient leurs gosses, des gens qui travaillent, ils ont dit non, vous arrêtez ça, sinon on va s'énerver. Même des gens qui n'avaient rien à voir, des plus âgés, vous arrêtez ça.
Là, dans
parce que ça crée des comportements violents.
Là, c'était grave, parce que ça se droguait dans les escaliers. Ça,
vous avez l'air de dire qu'il y a peu ou pas de trafic de cocaïne ou d'héroïne, mais vous avancez des raisons culturelles.
Dans cette cité, encore
oui,
une fois.
Oui.
Bah, effectivement, enfin, la cocaïne n'étant pas le crack, il y a quand même cette idée que les drogues dures sont vendues hors des murs. D'abord, il n'y a pas de consommation de drogues dures au sein des habitants de la cité. Les jeunes n'utilisent pas de cocaïne, ni
pour des raisons financières, parce que c'est trop cher
ou... Culturelles aussi.
Culturelles, parce que ce n'est pas dans leurs mœurs. Eux, c'est la résine de cannabis et ils ont préféré en rester là, quoi.
L'idée, c'est de dire que le cannabis, c'est plus naturel, c'est pas une drogue de synthèse. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de consommateurs au sein de la cité, ceux qui décident d'en vendre le font en dehors, notamment souvent à bord de ce qu'on appelle une coke mobile, donc une voiture qui va livrer directement les clients parisiens chez eux.
Oui, ça, ce sont les raisons qu'avancent les jeunes, effectivement. Est-ce que le trafic de cannabis est finalement ce qui a pacifié les ghettos, malgré... des règlements de compte et des violences entre bandes rivales qui surviennent, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs.
C'est compliqué de tirer ce genre de conclusion, mais c'est évident que je pense que la question que tout le monde se pose derrière celle de légaliser le cannabis, ce serait ça. Qu'est-ce qu'on va faire sauter comme digue et qu'est-ce qu'on va faire péter si on enlève à ces jeunes ce réseau qui quand même arrange beaucoup de gens aussi, enfin
qui occupe beaucoup de temps dans la journée,
voilà, qui rapporte de l'argent et qui font qu'ils s'occupent pas d'autres choses, ils passent pas à la vitesse supérieure non plus. Donc est-ce que le cannabis pacifie les cités, je pense que c'est un raccourci, on peut pas dire ça. En tout cas, dans la cité dans laquelle on a travaillé, ce trafic cohabite très pacifiquement avec le quotidien de ses habitants.
C'est ça.
Malek Dehoun.
Ouais, comme disait Manon, c'est vrai que moi où j'habite, le trafic de cannabis, bah maintenant il fait partie des mœurs. C'est comme si les jeunes allaient acheter une baguette ou quoi. C'est-à-dire, c'est même plus choquant. C'est-à-dire, tu vois les jeunes depuis quelques années, ils sont là, ils vendent et voilà, ils cassent la tête à personne, ils font pas de bruit. Après, voilà, ils sont quand même dans l'illicite. Hein, mais...
Marie-Hélène Baquet, vous qui avez écrit sur les banlieues, est-ce que vous avez le sentiment que le trafic de cannabis a pris une importance telle qu'il est incontournable aujourd'hui pour toute tentative de plan banlieue, de repenser l'organisation de la vie sociale dans ces cités?
Oui, le trafic de cannabis a pris de l'importance. Pas toujours de façon pacifique, hein, parce que quand il y a un four, par exemple, et que c'est-à-dire un immeuble, une cage d'escalier qui est concentrée, qui est complètement utilisée par des dealers, c'est pas forcément de façon pacifique, parce que l'ensemble des locataires sont obligés de le vivre au quotidien. Le trafic a pris de l'importance, mais je voudrais quand même revenir un peu plus sur la vision que vous apportez de la banlieue qui est intéressante, mais en même temps, parce que voilà, on y apprend beaucoup de choses, mais qui est un éclairage très ciblé.
Tout à fait.
Voilà, donc vous ciblez sur la drogue, sur sur l'islamisme, sur
le proxénétisme. Les jeunes sont pas tous dealers.
Non seulement ça, mais dans les cités, dans les cités HLM, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Et donc là, on voit un bout de la réalité qui fonctionne bien. Mais le danger, c'est de ne voir que ce bout-là, et de ne voir ce qui se passe dans ces quartiers populaires que à travers cette réalité-là. Et en plus, en la voyant que de l'intérieur, eh bien, le risque, c'est de ne pas voir tout ce qui se passe autour, et donc les causes, ce qui amène à cette réalité. Alors, pour revenir sur la question du cannabis, oui, c'est une vraie question. Il y a quand même un certain nombre d'endroits où il y a des drogues dures qui sont en train de revenir, parce qu'elles ont déjà existé, hein, dans les années 80. Il y a eu des drogues dures. C'est vrai que elles ont été chassées, notamment par les jeunes, par les familles. Et il y a des endroits où elles sont en train quand même de revenir. Alors avec des réalités très différentes selon les quartiers.
Alors on ne va pas parler que du trafic de cannabis dans les cités, mais néanmoins, il y a un rapport de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice qui a été publié il n'y a pas très longtemps et qui révélait que le trafic de cannabis en France, c'est 240 000 emplois et 1,1 milliard de chiffres d'affaires. Donc forcément, ça laisse songeur. Alors, il y a un autre business sur lequel vous avez enquêté, côté filles, cette fois-ci, qui est mal connu, même s'il y a eu une récente affaire de proxénétisme des cités. C'est la prostitution des filles dans des milieux musulmans. Des filles qui ont été élevées dans des milieux donc assez conservateurs culturellement. Pourquoi vous vous êtes intéressés à ce phénomène, tous les deux?
Bah, justement parce qu'il est, il est méconnu et que les trajectoires de ces jeunes filles qui finalement en viennent à se vendre dans un milieu où on les incite plus qu'ailleurs à la décence, on trouvait qu'il y avait un paradoxe là intéressant à creuser. En fait, il ne faut pas non plus aller chercher très loin, c'est de l'opportunisme essentiellement, c'est des jeunes filles qui ont besoin d'un ascenseur social et qui, pour qui faire une passe, c'est ce qu'elles ont trouvé à ce moment-là. C'est des gamines qui réalisent un moment qu'elles peuvent monnayer un rapport. Et à ce moment-là, il y a des copains de la cité souvent qui leur proposent leur service de protection, de sécurité, en moyennant quand même la moitié de leur revenu. Et c'est eux qui professionnalisent progressivement ce business-là, en leur créant des sites, des annonces sur des sites spécialisés, en louant des appartements ou des chambres d'hôtel aux portes de Paris qui leur permettent de recevoir les clients, qui leur font des jolies photos, qui donc s'approvisent Macron. Alors qu'effectivement, avant, ils faisaient complètement autre chose.
Avec des filles qui peuvent elles-mêmes aussi gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Hein. Oui, Malek Dehoun, vous avez été jeune, enfin, vous n'êtes pas très vieux non plus, mais vous avez été jeune à l'époque des tournantes plutôt. Ce qu'on appelait les tournantes à l'époque. Mais est-ce que vous avez connu, est-ce que vous voyez quelque chose de nouveau dans ce phénomène de la prostitution et du proxénétisme des cités?
Déjà, pardon, tournante, j'ai pas vu ça.
Non,
moi.
Mais dans l'actualité, il y a eu une époque où on parlait beaucoup de cela.
Ouais, c'est vrai. Mais, tournante,
plutôt des viols organisés.
Tournante, ouais, c'est des viols, c'est sale. C'est, bon, même la prostitution, c'est sale. Mais maintenant, c'est devenu un commerce, quoi, pour les filles. C'est-à-dire, une fille, elle se dit quoi bon, je suis jolie, je peux plaire à un homme, bah, autant faire de l'oseille, quoi. Je suis pas très forte, j'ai pas fait des études, donc la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se dit qu'elle va faire comme ça, elle trouve un petit jeune du quartier qui va s'occuper d'elle, qui va s'occuper de lui trouver un lieu, et voilà, c'est parti, une passe, deux passes, et voilà, après, ça s'arrête plus.
Les familles sont au courant?
Non, bah non. C'est souvent peut-être des... C'est souvent des filles qui sont un peu isolées, quand même. Hein.
Comment ça se passe, alors que ce sont des quartiers où tout le monde sait tout sur tout le monde?
Ben on arrive. À l'époque, ça aurait pu choquer. À l'époque, je sais que ça serait pas passé comme ça. On n'aurait pas laissé faire nous, parce que on n'a pas grandi comme ça. Mais j'ai remarqué que les jeunes maintenant, et ben ils s'en foutent. Ben, voilà, ils en rigolent. Ils sortent avec la fille normale. Ils vont aller en boîte. Ils vont sortir. Ils s'en foutent de ce qu'elle fait. Tant qu'elle fait. Maintenant, c'est tout est rapport avec l'argent. Tant qu'elle a de l'argent, tant qu'elle se débrouille, et ben voilà. Au moins, elle demande rien à personne. Elle a de l'argent. Donc ça choque presque plus personne maintenant. C'est devenu normal.
Ce ne sont pas les mêmes que l'on épouse, néanmoins.
Exactement. C'est vrai quoi. À ce niveau-là, non.
C'est-à-dire?
Ouais, non, je pense que non, je pense pas qu'il voudrait l'épouser, mais peut-être pour une soirée, mais pour la vie, non.
Couple mixte, noir-arabe, pour parler clairement, ça n'existe pas, dites-vous.
Si, ça existe, mais c'est pas très bien vu. Ça existe.
C'est compliqué.
C'est compliqué, quoi. C'est, voilà, comme a dit Manon, c'est compliqué, quoi. C'est... Bien sûr qu'il y en a, mais généralement, il y a un petit problème avec les parents, quoi. C'est les parents qui sont pas d'accord, ou les frères, qui n'acceptent pas cette mixité.
En même temps, statistiquement, quand on voit quand même que les couples mixtes augmentent de plus en plus et que la France est sans doute un des pays où il y a le plus de mixité, à la fois noir, arabe, blanc, arabe, blanc, noir. Donc,
je pense que ça évolue, vous avez raison.
Voilà,
après, effectivement, encore une fois, nous, c'est une cité. Dans cette cité-là, les histoires d'amour entre noirs et arabes, c'est des histoires qu'on vit cachées. Parce qu'on appréhende le jour où on présenterait l'élu aux parents et qui dirait ça pose un problème quand même, on n'est pas de la même culture.
Oui, mais comme dans un quartier bourgeois, ça poserait sans doute un problème.
Exactement.
Si on emmenait un noir ou un arabe d'un quartier populaire.
Oui. Voilà. Chacun son snobisme, en fait, je veux dire.
Non, mais c'est pour ça que c'est important de le replacer, parce que le risque, de la même façon, voilà, la prostitution, effectivement, c'est une vraie, c'est une vraie question, mais c'est quelque chose qui, dans les classes populaires, et depuis longtemps, voilà, un moyen pour s'en sortir, et pas seulement d'ailleurs dans les classes populaires. Donc le risque, c'est de focaliser sur ces quartiers et en sortant des choses qui seraient spécifiques. Le rapport à l'argent, par exemple, vous avez raison, c'est un rapport à l'argent, à la consommation qui traverse toute notre société. Et il n'y a pas tellement de raisons que les jeunes de ces quartiers populaires soient en dehors de ce rapport à l'argent, parce qu'ils sont face à une société de la consommation à laquelle ils n'ont pas accès. Donc ils pensent avec les mêmes outils, avec ce qu'ils entendent à la radio, à la télé, comme les autres.
Donc, exactement, à ceci près que le travail, nous, se passait dans une cité, donc forcément, on en revient toujours là.
Non,
mais vous avez raison, c'est des problématiques qu'on retrouve, et Dieu merci, dans toutes les tranches de la société française.
Oui. Non, si, non, mais si je pense que c'est important de le rappeler parce que médiatiquement, vous voyez, en ce moment, je travaille avec des groupes de jeunes dans 10 quartiers de l'Île-de-France sur les représentations de leur quartier. Et la première chose qui vient, et vous aviez complètement raison tout à l'heure, c'est de dire, mais nous, on en a marre, les journalistes, la télé donnent toujours des images négatives de notre quartier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce qui s'y passe, mais on les montre comme des quartiers particuliers qui seraient des quartiers où il n'y aurait que de la délinquance, de la drogue, etc. Or, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses.
Vous restez avec nous, on va parler de l'action publique, des politiques, depuis la révolte des banlieues et la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur à l'époque et qui parle, avant la révolte des banlieues d'ailleurs, de nettoyer les quartiers au Karcher. Quelles sont les impasses des politiques dans les cités depuis plus de 10 ans? On a l'impression que le pouvoir sait bien ce qui se passe dans les cités mais prend soin de laisser le couvercle de la marmite bien fermé. C'est du moins la raison qui a été invoquée par le maire Stéphane Gatignon, maire de Sevran qui a démissionné il y a plusieurs jours pour dénoncer les insuffisances des politiques publiques en banlieue. On en discute avec vous. Ça sera juste après une chanson qu'on va découvrir tout de suite.
Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Anciennement d'ici la peste, j'ai souvent la pêche, tout le temps la banane, un sourire au milieu du faciès. Je viens d'un Tiex, les coups durs, je les encaisse. T'inquiète, je fais ma quête, je ne cesse de relever la tête. Pour ce texte, franchement, je vais pas faire des jolies phrases ni des jolies phrases. Je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage et que mon message, c'est l'appel, amour, la foi. De ces trois mots, je suis otage. J'ai le syndrome de Stockholm, je me dois en tant qu'homme de rester fort et dur, même si la vie déconne. J'ai des sous, c'est vrai, mais j'ai aussi des soucis. Écoute mon album du blé, tu verras qui je suis. Ce qui m'inspire, c'est les films et les livres, notamment Gloria, l'alchimiste et l'esquive. J'étais qu'un jeune de banlieue, maintenant je vends des disques et des films. Mais je suis toujours un jeune de banlieue, à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance, qui croient faire des blagues, toutes pérables, on n'a pas le même sens. Ni de l'humour, ni de l'amour, et pour la France, peu importe ce que je ferai, à jamais dans sa conscience. J'étais qu'un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.
C'est d'ici la peste chez 7 milliards de voisins, jeunes de banlieue. Ce qui est sûr, c'est que la banlieue, la créativité musicale qu'inspire les cités est absolument infinie. Ça se renouvelle d'ailleurs en permanence avec différents genres musicaux, tous bien sûr inspirés du hip-hop. Alors je voudrais qu'on parle maintenant effectivement de l'action publique avec vous, Manon Kérouille, Malek Dehoune, qui est l'auteur de La part du ghetto, la vérité sur les banlieues, et puis également avec vous, Marie-Hélène Baquet, chercheuse sur ces quartiers précaires. Aujourd'hui, Marie-Hélène Baquet, où est-ce qu'on en est? On s'apprête à découvrir un énième plan pour les banlieues avec le rapport Jean-Louis Borloo qui parle de 48 milliards. Alors c'est un peu plus large que les banlieues en réalité, hein. Ça concerne, en fait c'est un plan de rénovation urbaine, mais tout le monde comprend bien ce que cela signifie. Quels ont été finalement ces dernières années les atermoiements politiques sur ce sujet-là et pourquoi on n'avance pas davantage?
Bien, une des questions, c'est qu'on a centré toute l'intervention publique sur la rénovation urbaine, précisément, donc sur des grands travaux qui, c'est vrai, ont changé un certain nombre de quartiers physiquement, mais sans travailler la question sociale, qui est la première question. Et puis l'autre axe, ça a été la question de la sécurité, avec des tensions très, très fortes autour des rapports entre police et population. Et le problème, c'est que cette politique de la ville s'est construite sans les habitants et a toujours été faite sans les habitants. Avec Mohamed Meshmash, nous avions en 2013 rendu un rapport au ministre de la ville où nous faisions 30 propositions pour redonner du pouvoir d'agir aux habitants.
Il était dans cette émission la semaine dernière d'ailleurs, ouais. Et on sent bien que dans sa génération à lui, Mohamed Meshmash, il y a une forte critique à l'égard des élus locaux, notamment.
Oui, de certains élus locaux, parce qu'effectivement, ils s'appuient en général très peu sur les habitants, mais aussi d'une politique globale qui est une politique qui vient d'en haut et qui est rarement discutée. Quand on fait un plan de rénovation...
A priori, les élus locaux sont là pour ça.
les élus locaux sont là pour
travailler avec les habitants quand même.
Tout à fait, ils sont là pour ça, mais quand par exemple l'Agence nationale de rénovation urbaine donne comme critère le fait qu'il faut vraiment démolir dans les quartiers populaires, eh bien les élus mettent en place aussi cette politique. Quand aujourd'hui bien il y a un retrait de l'État des politiques de construction de logements sociaux, les élus aujourd'hui sont, et on voit bien avec la décision de Stéphane Gatignon, ils sont parfois dans une situation d'impuissance par rapport à la gestion de leur territoire, sans pour autant leur donner de blanc-seing.
Démolir des bars où plus rien ne fonctionne comme il faut, c'est pas la solution pour vous ?
Non, d'abord parce qu'il y a des bars qu'il faut démolir, parce qu'il y a des bars qui sont totalement usés, qui ont été mal construits, dans lesquels il y avait des problèmes réels. Mais démolir une barre parce qu'il y a du trafic dans la barre, ça résout pas le problème du trafic. Il va juste, c'est ce qu'on voit à Sevran, il va juste se déplacer un tout petit peu plus loin. Démolir une barre parce qu'il y a trop de populations précarisées ne résout pas le problème, parce que les populations précarisées, on les repousse un peu plus loin dans une autre cité HLM et finalement on reconstitue un peu plus loin une poche de pauvreté. La question c'est comment est-ce qu'on est capable de traiter la question de la pauvreté, de traiter la question de l'accès au travail, de traiter la question de l'accès à l'éducation et puis aussi de donner aux habitants qui sont dans ces quartiers la possibilité de choix de leur lieu d'habitat, ce qui est une question assez fondamentale.
Et en même temps, les jeunes que vous interrogez dans votre quête, Manon Carouille et Malek Dehoun, aiment l'endroit où ils vivent. Non.
Il aime, Malek Dehoun. Il y a
un attachement au quartier.
Ouais, c'est parce que c'est, il y a des souvenirs, il y a des moments passés. Tu te sens chez toi. En fait, ce qui est bien dans un quartier, c'est une famille. On est tous une famille. Quand le mec il va pas bien, on peut l'aider. Quand la maman du dessus elle a des besoins, on peut l'aider. Quand voilà, on sait tout. Ça veut dire c'est ce côté-là qui nous manque. Mais si on peut quitter nos tours dégueulasses, on va les quitter les premiers. On est tous les premiers à vouloir les quitter. Hein. Je vous dis la vérité, même les petits jeunes. Hein.
Bon. Par quel bout faudrait-il prendre le problème aujourd'hui, Manon Carouille? Pourquoi les politiques...
C'est une bonne question. Je suis d'accord avec cette idée que l'aspect social a été vraiment, vraiment négligé et qu'il faudrait peut-être retourner à des fondamentaux, des basiques qui sont du terrain. Enfin, en tout cas, en étant journaliste, moi, je peux que raisonner comme ça. Retourner dans les quartiers, écouter, assurer une présence qui soit à la fois bienveillante et continue.
Vous avez constaté dans votre enquête très peu de présence, finalement, du service public français dans ces cités.
Ouais.
Que ça soit policiers, travailleurs sociaux,
Parce qu'avant, il y avait la police de proximité. Mmh. Et je vous promets que ça se passait super bien quand ils étaient là. Ils venaient, ils discutaient, il y avait moins de petites délinquances. Ils étaient là, ils nous connaissaient, mais ils interpellaient aussi. Hein. Ils faisaient un bon boulot. Je ne sais pas, ça a disparu ces dernières années. Maintenant, quand la police, elle vient, c'est pour frapper. Bon, frapper entre guillemets, quoi, pour arrêter. Hein. Ce n'est pas frapper, ils tapent personne. Hein. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, ils viennent faire leur boulot, mais il n'y a plus de... Ça veut dire, même le rapport qu'on avait avant avec la police, on se voyait, bonjour, ils faisaient partie de la ville. Maintenant, non. Maintenant, c'est les jeunes contre la police, c'est plus pareil.
Mais il y a une vraie méfiance qui s'est creusée justement sur cette absence au quotidien. Maintenant, et quand ils les voient débarquer, effectivement, ils savent que c'est pour une interpellation. Voilà. Pas pour discuter, pour prendre la température, pour se demander ce qui se passe. Et il y a du coup, effectivement, par moments, des interpellations abusives pour des contrôles d'identité qui sont un peu trop musclés. Du coup, même des mamans qui sont maintenant en défiance avec la police en se disant à chaque fois qu'ils viennent, ils arrêtent un de mes gamins alors qu'il vient de tomber du lit et qu'il n'a pas forcément fait ce qu'il... Enfin, et voilà, il sort de chez lui, on l'arrête et de façon un peu musclée. Donc effectivement, dans ce vide et cette absence, se forge une méfiance des deux côtés.
Est-ce qu'on peut parler d'une jeunesse dans ces cités totalement dépolitisée ?
Non, je ne crois pas. Elle est politisée à sa façon. Il existe quand même tout un tissu associatif dans ces quartiers qui peine à se faire reconnaître, qui peine à se faire entendre. On parlait par exemple de Mohamed Meshmash, Assez le Feu, créé en 2005 au moment des révoltes de banlieue, qui est aujourd'hui une association qui continue à fonctionner. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de petits groupes. Mais ce n'est pas effectivement la politisation comme il y a 30 ans.
Qui ont énormément de mal à se faire financer d'ailleurs.
Ils ont du mal à se faire financer. français, ils ont du mal à se faire entendre. Je pense à des associations comme Zonzon 93 à Villepinte, à Maman Toutes Égales. Voilà, il y a une série d'associations qui existent, mais qui ont du mal à se faire reconnaître.
Enfin, encore une fois, dans la cité dans laquelle on a travaillé, c'est des associations qui ne disent rien à personne. Hein. Les jeunes sont très loin de ça. Ils n'ont pas l'impression de se retrouver dans un combat. Moi, je dirais au contraire que la génération des 18-20 ans, dans ce quartier, est très peu politisé pendant les élections.
Ils sont business, quoi, en fait.
Hein. Ils sont business, ou en tout cas, oui, enfin, c'est pas une préoccupation quotidienne. Les quelques jeunes qui s'intéressaient à la politique aimaient Mélenchon, parce qu'il a ce côté punk qui peut leur parler, mais globalement, c'est des discours qu'on n'a jamais.
Enfin, mais être politisé, c'est pas forcément voter. Il y a d'autres façons d'être.
Ou engagé dans la cité.
C'est aussi penser les enjeux politiques. Quand vous discutez avec des groupes de jeunes de la question de la discrimination, par exemple, ce sont des questions qui les mobilisent, qui les intéressent. Mais effectivement, on est là aussi, dans un contexte global français où les perspectives politiques sont
En tout cas, il faut découvrir votre enquête, Manon Kerouille-Brunel et Malek Dehoun, La part du ghetto, la vérité sur les banlieues. C'est publié chez Fayard. Merci à vous d'être venu.
Merci.
Merci à vous, Marie-Hélène Baquet, professeure d'études urbaines à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez publié Mixité sociale et après, aux presses universitaires de France. Merci à vous.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, on découvre celles et ceux qui font l'Afrique qui gagne, qu'ils soient célèbres ou tout à fait anonymes. D'ailleurs, aujourd'hui, on pénètre dans le monde du spectacle, un secteur en plein développement sur le continent. The Voice Afrique francophone est un carton sur la chaîne panafricaine Vox Africa. 80 millions de vues sur YouTube, des dizaines de millions de téléspectateurs. Ce programme de divertissement musical a conquis le continent et la diaspora d'ailleurs africaine. Il a été lancé l'année dernière par Vox Africa, donc une chaîne qui a été créée il y a 10 ans maintenant par la productrice Rolande Camonnier. Elle a raconté son parcours à Alice Milo.
Je suis née au Cameroun il y a 35 ans. J'ai fait toute mon enfance, adolescence à Yaoundé. Je suis allée au lycée français Fustel de Coulanges, où j'ai eu mon bac S. En 2000, je suis admise à l'université aux États-Unis, à Columbia, l'université de Columbia, et j'obtiens un diplôme d'ingénieur. En fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais une très très bonne amie. Elle était afro-américaine. Et du coup, j'avais une idée, je dirais, erronée de son histoire en tant qu'africaine-américaine. Et elle aussi, de mon histoire. Parce qu'on se regardait, je dirais, à travers des lentilles occidentales, excusez-moi le terme, parce qu'elle regardait peut-être l'Afrique à travers des médias américains. Ce n'est pas toujours éluisant. Et moi, je regardais les Afro-Américains à travers des clips vidéo et tout ça. Les Afro-Américaines, c'était toutes des filles de clips, des filles vulgaires, excusez-moi le terme. J'avais du mal à percevoir quelqu'un de super éduqué avec une famille, on avait tous des gens qui venaient de ghetto. En tout cas, je vous parle d'il y a 15 ans. Et elle, c'était l'Afrique, est-ce que vous avez du coca chez vous en Afrique? Donc, c'était réellement des clichés. Je ne sais pas si on faisait exprès ou si... En tout cas, moi, je ne faisais pas exprès. Je me suis dit, ce serait réellement intéressant d'avoir un média qui réunit toutes les diasporas africaines dans le monde. Ça veut dire un média qui serait disponible dans tout le monde entier. Ça veut dire qu'on pourrait raconter nos histoires avec nos regards. Donc, après mes études, l'obtention de mon diplôme, j'ai fait un stage dans la banque et la finance. Après 2 mois de stage, j'avais définitivement accepté l'idée de ne pas être une banquière. Donc, j'ai accepté un autre stage dans une maison de production indépendante qui s'appelle Killer Films à New York. Et j'ai entendu parler de la possibilité de la création d'un média africain, panafricain. Il fallait des analystes pour monter le business plan. Ça se faisait au Cameroun. J'avais cette formation pour faire le business plan. Alors j'ai intégré l'équipe d'analystes et comme d'habitude, j'ai commencé à avoir plein d'idées, à monter tout le business plan. On a présenté cela aux actionnaires, aux investisseurs. Voilà comment en septembre 2007, j'arrive à Londres. Sans avoir jamais vécu en Angleterre, je m'installe pour monter Vox Africa. L'ambition réellement, c'était de créer une voix plurielle et réelle ou authentique de l'Afrique, c'est-à-dire que donner la parole aux Africains. C'était d'abord ça l'ambition.
Enfin, vous accordez dans votre programmation beaucoup de place au divertissement, et en particulier au chant, à la chanson, à la musique, puisque donc vous avez monté The Voice Africa, qui est donc un programme de divertissement, un concours de chant, hein, à la télévision, hein, comme il existe en Europe et aux États-Unis. C'est de vous que vient cette idée ?
Moi, je suis une chanteuse d'église, donc j'adore la musique d'abord. Hein. Mais The Voice, d'abord, c'est un phénomène planétaire. Et il est diffusé dans plus de 180 pays. Et à chaque fois, il est numéro 1 en termes d'audience. Même en Afghanistan, ce show, il marche. Pendant la guerre, il était numéro 1. Alors, on fait ce constat en se disant, l'Afrique ne peut pas toujours être à l'écart des phénomènes planétaires. Je veux dire, si pour nous, on s'est dit, le show coûte énormément cher quand on voit, surtout vu le contexte de la conjoncture économique en Afrique. Mais quand même, la réussite de Voice dans le monde nous force à croire que même en Afrique, ça marchera. Et on a fait ce pari-là, en expliquant aux producteurs que réellement, pour nous, c'était de donner une âme africaine au show. Le choix des musiques. Et même quand on fait des musiques, que ce soit françaises, qu'on en fait beaucoup, des musiques américaines, l'arrangement des musiques avec des sonorités africaines. Et maintenant, quand vous avez un talent qui vous rend une chanson de Francis Cabrel, mais en version africaine, c'est assez intéressant. Je vous assure, c'est assez, on l'a dans The Voice sur notre page YouTube. Mais moi, je vais vous dire ce que The Voice a changé. Moi, j'avais des gens qui m'appelaient, qui me disaient « Le samedi, on ne peut plus rien faire chez nous à cause de The Voice ». C'est des gens qui, même avant, ne regardaient pas la télé parce que c'est un show familial. Quand votre femme aime le show, toute la maison est forcée de regarder le show. Donc, le profil a changé complètement. Moi, je dirais que c'était un show familial. J'avais vraiment des amis qui me disent « J'ai hâte que la saison finisse parce que ma femme nous impose tout chaud tous les samedis. On ne peut pas aller au restaurant à des mariages. » Même certains mariages commençaient en retard. La saison 1, c'était réellement pour moi, j'étais bluffée. On avait des chiffres, on nous donne 10 millions de téléspectateurs au Cameroun et 9 millions en Côte d'Ivoire. Je ne m'y attendais pas à ce succès et ça continue encore cette saison. Oui.
Pourquoi ça marche autant ? Pourquoi ça rencontre un tel succès d'après vous ?
L'Afrique où les jeunes Africains ont besoin d'opportunités. Il y a un avant et un après The Voice pour tous les talents, déjà en termes de notoriété. Et ça vous donne déjà une carte de visite. Maintenant, les plus persévérants trouveront le moyen de poursuivre leur carrière parce que bien évidemment, l'environnement africain musical n'est pas encore structuré comme ailleurs. Donc ça peut prendre du temps, mais je pense que le fait d'avoir eu déjà cette exposition a changé la vie de beaucoup. Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Est-ce que ça paraît pas accessoire d'accorder autant d'énergie dans le divertissement ?
Pour moi, c'est pas le divertissement. Parce que quand vous êtes petit et que vous regardez la télé, quelqu'un faire un sport, et vous le voyez encensé, ça vous donne une ambition à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Je veux être cette personne demain. Un rêve naît, une volonté, une motivation. Pour nous, The Voice, ce n'est pas juste un divertissement. J'ai mes petites nièces qui sont en train de chanter. Quand je leur ai dit, il est possible avec les difficultés de financement qu'on ne fasse pas The Voice, elles étaient tous en train de faire un concert de pleurs. Parce qu'elle disait, non, il faut moins que ça arrive. Bon, là, j'ai 8 ans, 10 ans, tu peux arrêter juste après que je... Parce qu'un rêve est né en elle, un rêve est né dans une jeunesse africaine. Et je pense que le plus important, tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve.
C'était Rolande Camonnier, productrice de The Voice Afrique francophone de la chaîne Vox Africa. Évidemment, un petit clin d'œil à notre amie Claudie Ciard qui présente l'émission. Lundi prochain, un autre parcours de l'Afrique qui gagne à découvrir donc très régulièrement chez 7 milliards de voisins chaque lundi. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des voitures d'occasion en Afrique. Les France au revoir, leur provenance évolue, mais toujours les mêmes problèmes et bien sûr les mêmes polémiques. On en discute.